Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'une femme à qui on dit après un accident de moto « Vous ne pourrez plus jamais remarcher. Vous êtes condamné au fauteuil roulant. » Mais le mot « jamais » ne fait pas partie de son logiciel. Alors 3 mois et demi après, elle marche. 11 mois après, elle remonte sur des skis. Et un peu plus d'un mois plus tard, sur un vélo. Et surtout, 3 ans et demi plus tard, elle gravit le Mont Blanc. Elle s'appelle Sylvie Samicia. J'ai tiré son histoire de son livre qui paraît aux éditions Guérin, L'impatiente. Sous-titre, Ma troisième vie commence au Mont Blanc. J'en ai tiré un récit très revigorant que j'ai écrit avec Tuc Duhal de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je suis né en Alsace, à Flaxlanden, au sud de Mulhouse. Une maison avec un très grand jardin, des potagers, un verger. Avec ma sœur, je passais mon temps à jouer dans les arbres. Et avec les voisins, on faisait du vélo, du patin à roulettes. Et à l'adolescence, je partais des journées entières à bicyclette. Bref, j'ai toujours eu besoin de me défouler. Je ne tenais pas en place. Et ma mère me disait « Enfin Sylvie, essaye de pas remuer pendant une minute. » Je n'ai jamais réussi. Et puis j'ai fait de la musique aussi, de la clarinette. Je voulais en faire mon métier. Et à l'école de musique, je jouais dans l'orchestre d'harmonie. J'avais 13 ans. Et je plaisais beaucoup au directeur. Et moi, je l'aimais bien. Il me donnait toujours des partitions intéressantes. Je ne voulais pas le décevoir. Et si j'ai eu mon diplôme de fin d'études de clarinette au conservatoire de Strasbourg, c'est grâce à lui. Seulement, il avait une façon bien à lui d'aimer les jeunes filles. Et un jour, j'avais 13 ans, il s'est occupé de mon initiation sexuelle. Le salaud ! J'ai rien dit. J'ai pris sur moi, je me suis dit que c'était ma faute. Et puis, je voulais vivre heureuse. Je voulais croquer la vie, je voulais garder mon sourire, mon optimisme. Il m'a fallu 17 années de plus pour dire ce qui s'était passé à mon mari. Après le bac, j'ai tenté une fac d'histoire. Mais c'était trop immobile, ça n'était pas fait pour moi. Alors je me suis inscrit dans une fac de sport, mais c'était trop intellectuel pour le coup, et pas assez sportif. Et là, j'ai quitté l'Alsace sur un coup de tête. Et je suis allé m'installer dans les montagnes, parce que mes parents m'y avaient amené en vacances. Un coup de foudre. Et cette année-là, j'ai gravi le Mont Blanc avec mon père. Et la montagne est devenue une nouvelle passion, encore plus forte que la musique. J'aime grimper. J'aime entendre le crissement des crampons tôt le matin dans la neige. J'aime me faire prendre dans la tempête. J'aime éviter les chutes de pierre. J'aime arriver coûte que coûte au sommet. Et là-haut, j'aime sentir le vent léger. Je me suis toujours dit que s'il devait m'arriver un accident, ce serait en montagne. Les années passent. Je me marie avec Eric, on a des enfants. Robin qui a aujourd'hui 17 ans et Camille qui en a 11. Et un matin de mars 2015, Eric et moi partons skier. Enfin, c'est ce qu'on croit. On arrive au téléphérique, la cohue. Au moins 1 heure d'attente. Et si on partait en moto plutôt ? Il fait beau, les routes sont sèches, ça te dit ? Si j'étais allé skier, aurais-je eu aussi un accident ? Ça fait 6 ans que je partage ces sorties moto avec Eric, mon mari. Et aujourd'hui, c'est une belle journée de printemps. Et je sens ma belle 900 Ducati siffler légèrement dans mon casque. Après cet hiver passé sur des skis, quel plaisir de retrouver les sensations de la moto. Moi, j'aime bien l'engagement. Pas le droit de tomber, pas le droit à l'erreur, toujours rester concentré. C'est grisant. Et ce matin-là, on plonge tous les deux vers la vallée de l'Arve, par la route étroite et sinueuse du village des carrosses d'arrache. Et devant nous, il y a une file de voitures à touche-touche. Elles sont ralenties par un convoi exceptionnel. Eric est devant, il double sans problème. Je m'engage à mon tour. Mais pourquoi ? Pourquoi ma main s'est-elle crispée sur le frein ? Pourquoi ma moto est-elle partie en vrille ? J'ai juste eu le temps de crier « Ouh !» et j'ai glissé vers les roues du camion et là, une grande lumière blanche, d'un blanc éclatant, un blanc qui n'existe nulle part sur Terre, qui me happe, qui m'aspire hors de mon corps. Ma première vie s'arrête là, à cet instant. Sylvie, reviens ! Reviens, reviens Sylvie, on a besoin de toi. Les enfants aussi, je t'en supplie. Sylvie, reviens. Mais moi, à ce moment-là, je suis bien, je suis zen. Donc c'est si doux, la mort. Mais Eric continue de m'appeler et d'un coup, je décide de retourner dans mon corps, c'est-à-dire encastré entre les roues et la carlingue du camion. J'ouvre les yeux 5 jours plus tard à l'hôpital. Bonjour. C'est normal que vous puissiez pas me parler, hein ? Vous avez des appareils dans votre bouche pour vous faire respirer. Je suis content de vous voir avec les yeux ouverts, hein ? Vous avez vraiment de la chance d'être encore là. Vous avez perdu beaucoup de sang. Il a fallu vous transfuser. Et il a fallu vous amputer du bras droit, au-dessus du coude. Et par ailleurs, la moelle épinière est touchée. Elle est sectionnée par endroits et... Oh, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne vais plus pouvoir marcher. Alors j'essaye de bouger les doigts de pied. Rien ne répond. Mais non ! Non, je ne suis pas d'accord. C'est l'extrémité de la moelle épinière qui est touchée, vous savez. Et avec de la chance et beaucoup de volonté, dans quelques années, vous pourrez peut-être vous mettre debout, hein ? Et faire quelques pas pour aller du fauteuil jusqu'au lit. Fauteuil jusqu'au lit ? Cause toujours. Moi, j'irai au Mont-Blanc. J'irai, comme je l'avais prévu, sur le Mont-Blanc avec mon fils Robin. Enfin, tout ne va pas s'arrêter dans cette chambre d'hôpital. Ils ont dit à Eric qu'ils ne savaient pas si j'allais vivre, qu'il y avait un risque d'infection, que si tout se passait bien, ils allaient me garder 6 mois, que j'en avais pour 2 ans de rééducation, que je serais dans un fauteuil roulant. Et moi, à cet instant, dans ce corps qui ne peut pas bouger et qui me fait si mal, je décide que tous mes projets, tous mes rêves les plus fous, se réaliseront. ...28 mars 2015... 15 jours après l'accident. C'est un grand jour, parce que ce matin, à force de concentration, à force de volonté, de conviction, mes doigts de pied ont bougé. Et je le dis à l'infirmière. « Oh mais non, madame, vous vous faites une idée, hein ? Elle ne va même pas vérifier sous les draps. Et quand Eric et les enfants arrivent, regardez, je peux bouger les doigts de pied. Et du coup, je vais marcher. Je vais pouvoir retourner au Mont-Blanc. » Je n'imagine pas une seconde passer ma vie dans un fauteuil roulant. Deux jours plus tard, c'est mon anniversaire, 44 ans. Avant, pour mon anniversaire, en général, je faisais une rando à ski et je rentrais le soir à la maison le visage cramoisi pour souffler les bougies du gâteau.
Joyeux.
À quoi bon pleurer sur tout ça ? Pour me démotiver ? Pour souffrir encore plus ? Alors je fais bouger mes doigts de pied. Et ça bouge. Et je retrouve le moral. Vers 19h, Eric, Robin et Camille arrivent à grand bruit. Je les entends dans le couloir. « Monsieur, Monsieur, ici, c'est un hôpital, hein? C'est pas une piste de ski. Les pistes de ski, c'est là-haut. Et je comprends. Je comprends quand je les vois débarquer dans ma chambre avec mon cadeau. Une belle paire de skis toute neuve, avec un ruban. Et je suis si contente, si émue. C'est dingue d'avoir osé un tel cadeau. Ils veulent croire que je dis vrai. Et moi aussi, j'y crois. Tous les matins, on me réveille vers 6h30. Bonjour. Tension, médicaments. Et puis, le radiologue vient tous les matins pour une douloureuse radio des poumons. Ils sont perforés. Il faut savoir s'ils se recollent, s'ils ne s'infectent pas. S'ils s'infectent, je suis morte. Puis arrive l'aide-soignante pour la toilette, aux gants de toilette. Et vers 10h, l'infirmière pour refaire mes pansements. Et quand elle ouvre celui du moignon, j'ose pas regarder. J'ai peur de voir l'os et de voir la chair sanguinolente dessus. Et puis, il y a le pansement dans le dos, 50 cm. Et puis, celui du genou droit qui a brûlé. Et ensuite, arrive le kiné et sa stagiaire qui font bouger mes jambes. Bon, maintenant on va faire de la kiné respiratoire. Allez-y, inspirez. Expirez profondément. Retenez votre respiration. Très bien, on reprend. ...7 avril... moins d'un mois après l'accident. Bon, vous allez pouvoir quitter l'hôpital, hein. Vos poumons ne saignent plus et... donc vous allez pouvoir aller dans un centre de rééducation, hein. On va enlever vos drains et vous retirer aussi la trentaine d'agrafes que vous avez dans le dos. Ok ? Trois jours plus tard, on me transfère en ambulance au centre de rééducation de San Selmos, un ancien sanatorium à 1000 mètres d'altitude. Voilà votre chambre. C'est la 119. Elle ne ressemble pas du tout à une chambre d'hôpital. Elle est vieillotte, la tapisserie est délavée, il manque des morceaux, et la fenêtre ne ferme pas correctement. Peu importe. Je suis là pour progresser. Vous voulez la télévision ? Non. Si j'en ai une, je vais la regarder, je me connais. Et je passerai moins de temps à travailler ma rééducation. Mais deux mois après l'accident, j'ai rendez-vous avec Marie-Neige, l'assistante sociale. Alors, il va falloir que vous fassiez un dossier, hein, pour faire reconnaître vos handicaps et puis obtenir en conséquence les aides financières, techniques, humaines, tout ça, quoi. Et donc, il faudrait que vous écriviez une lettre, hein, dans laquelle vous racontez votre vie d'avant. Et en quelque sorte, l'avenir que vous vous imaginez aujourd'hui. Et pour ça, il ne faudrait pas trop traîner, hein, parce que après, il y a énormément d'attentes. D'accord ? Je rentre dans ma chambre, je prends ma tablette, j'écris mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, et puis la date et madame, monsieur. Et là, je réfléchis à ma vie d'avant. Je la connais par cœur, hein, c'est ma vie. Rien ne sort. Rien. J'essaye de me concentrer, je n'arrive pas à écrire une phrase. Et pareil pour l'avenir. Je sais que je vais remarcher, je sais que je vais skier, je sais que je vais gravir le Mont Blanc. Mais je n'arrive pas à l'écrire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je réessaye le lendemain et une semaine plus tard, et cette fichue lettre n'est toujours pas écrite. Et donc je dois demander à Eric de l'écrire à ma place. Pourquoi mon cerveau tourne-t-il au ralenti ? Je trouve la réponse le soir quand Lucie, l'infirmière, m'apporte mes médicaments. Ça va ? Vous pouvez les prendre toutes seules ? Oui, pas de problème. Je les aligne sur mon plateau. Il y en a 23 à avaler matin, midi et soir. 69 par jour. Pourquoi ? Alors j'avale les 23 sagement l'un après l'autre. Et quand l'aide-soignante vient récupérer le plateau repas, dites, vous savez pourquoi j'ai autant de médicaments ? Oh ben moi j'en sais rien. C'est pas mon domaine. Mais je vais en parler au docteur. Le docteur vient le lendemain à 7h. Bon, alors celui-là, c'est un antidépresseur. Celui-là, c'est un somnifère. Le petit blanc, là, c'est un fluidifiant sanguin. Les rouges et les verts, c'est des antidouleurs. Le sachet, là, c'est pour le transit intestinal. Et le orange, eh bien, c'est pour mieux supporter tous les autres médicaments. Dites, docteur, j'ai un problème pour me concentrer. On pourrait pas baisser un peu les doses ? Ah non, non. Non, vu votre état, je veux pas prendre de risques, hein. Eh bien, je le ferai toute seule. Je n'ai pas besoin d'antidépresseurs, ni de somnifères. Et pour le reste, je vais diminuer les doses. Au lieu de 4 pilules blanches et rouges, je vais en prendre 3, et la semaine prochaine, 2. Et là où il n'y en a qu'une, eh bien, j'arrête tout de suite. Alors bien sûr, au bout d'une semaine, les douleurs sont plus vives, mais tant pis. J'arrive mieux à réfléchir. Le 29 mai, 2 mois et demi après l'accident. Ça fait 10 jours que j'essaye de me mettre debout dans la petite salle de kiné. En m'accrochant à l'espalier, les kinés m'aident juste à me lever. Et depuis 8 jours, j'arrive à rester debout. Et maintenant, je tiens presque 5 minutes. Et aujourd'hui, petite victoire, je suis arrivé à me lever toute seule. Mon prochain but, c'est de marcher. On est vendredi. Vendredi prochain, je fais mes premiers pas. C'est juré. Le vendredi suivant, ils sont tous là qui m'attendent de pied ferme. Même si mon ergothérapeute n'y croit pas. Sylvie, médicalement parlant, c'est impossible. Hein ? Allez, maintenant je dois me lancer. Allez Sylvie, tu peux le faire. J'avance le pied droit. Allez, allez, tu peux le faire. Et là, j'avance le gauche et puis le droit. J'ai réussi. J'ai fait 3 pas. Oh, je suis si heureuse. J'ai envie de pleurer de joie. Et demain, j'en ferai 12, et 24, et ainsi de suite. Rien ne pourra plus m'arrêter. 15 juin. 3 mois après l'accident, à force d'éliminer un médicament par semaine, je n'en prends plus qu'un. Obligatoire pour fluidifier le sang et éviter les phlébites. Et les autres ? Les autres, je les jette discrètement. Je vais bien. J'ai la pêche. J'ai retrouvé mon cerveau. Et le médecin qui me dit « Bon, on va pouvoir diminuer les doses progressivement. Et d'ici 2 à 3 mois, il ne vous restera que les antidouleurs et les neuropathiques hein, qu'il faudra sans doute que vous gardiez à vie. » 26 juin. Depuis que je m'entraîne à marcher avec des béquilles, j'ai fait des progrès. Même si ça ne va jamais assez vite à mon goût. Hein. Je ne peux pas encore aller dehors. Les graviers me font perdre l'équilibre. J'ai décidé néanmoins de rendre mon fauteuil électrique. Je veux tout faire à pied pour progresser. 11 juillet. Maintenant, sur un terrain plat, avec ma béquille, je vadrouille 500 mètres. Et j'arrive à monter et à descendre les escaliers. J'ai droit à un week-end à la maison. Le 27 juillet. Ça y est, je rentre à la maison. Je reviendrai au centre tous les jours, de 9h à 17h. Dire qu'il y a 4 mois et demi, je me réveillais immobile et transpercé par la douleur. Face à un médecin qui m'annonçait que je ne remarcherai plus jamais. Mais pour moi, le plus important reste à venir. 3 février 2016, 10 mois et demi après l'accident. Ça fait des semaines que je vois Eric, Robin et Camille partir skier. On habite au pied des pistes et moi, ça me démange. Et une fois de plus, les kinés et les médecins m'ont dit « Skier ? Oh mais c'est impossible !» Mais moi j'y crois. Et Eric aussi. Il fait beau, on y va. Mettre mes chaussures de ski est une première épreuve. Mes doigts de pied se recroquevillent. Et j'ai pas assez de force pour rentrer dans la chaussure. Il me faut une demi-heure. Mais ça y est. Et maintenant, je dois trouver mon équilibre. Eric me tient, je fais 50 mètres, et là, il me fait chausser des skis. Oh là là ! Ça tangue ! Je fais des petits pas, j'essaye de retrouver des sensations. Bref, je me donne un cours de ski spécial débutant handicapé. Je prends le tapis roulant qui mène en haut de la toute petite piste des enfants. Et je descends doucement, en chasse-neige. Et je le fais une fois, deux fois, 10 fois. Je suis fatigué. Mais la prochaine fois, je prendrai le télésiège. Une autre idée me trotte dans la tête. Refaire du vélo. Mais avant, ça passe par de la kiné pour débloquer mon genou. Les kinés ont beau pousser pour qu'ils fléchissent, ça ne progresse pas. Bon, ce que je te propose, Sylvie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du gaz hilarant. Qui te permettra de moins sentir la douleur. Et donc, on va pouvoir pousser la flexion du genou en cassant les adhérences. On y va ? Alors, tu respires lentement et calmement dans le masque à gaz. Vas-y. La première fois, je respire trop fort. Je ne fais plus que rigoler. Et la deuxième fois, je m'applique. Et on fait ça pendant un mois. Et après, je dois tout réapprendre, comme un enfant. Je commence par des allers-retours sur le seul bout de route plate près de chez moi. Mais je tiens mon guidon que d'une seule main. Il me faudrait une prothèse. Une prothèse ? Ah mais ça, c'est pas possible. Hein. On n'a pas ça en catalogue. Pas possible. Eric, un de mes copains mécanos et mon ergothérapeute, m'en fabrique une. Et comme ça, je peux aller de plus en plus loin. Là où le vent de liberté souffle dans mes oreilles. Février 2018, un peu moins de 3 ans après mon accident. C'est un hiver magnifique, il y a beaucoup de neige. Et aujourd'hui avec Eric, on prend le téléphérique de l'Aiguille du Midi pour aller faire la Vallée Blanche, un itinéraire de ski hors piste de 20 km dans le massif du Mont Blanc. On s'arrête pour manger au refuge du Requin. Et là arrive un guide que je connais, Doumé. Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu.
Je savais pas que t'avais perdu un bras, Sylvie. Tu sais que je travaille qu'avec des clients handicapés maintenant ?
Ah bon ? Dis-moi, Doumé, est-ce que tu accepterais de m'emmener au Mont-Blanc ? Cet été, disons, en juin ?
Le projet me semble fou, mais pourquoi pas ? Je veux bien essayer.
L'objectif Mont-Blanc cesse d'être un rêve lointain. « 17 juin 2018, 3 ans et 3 mois après mon accident. C'est le jour J. Je pars pour cette aventure avec Eric, avec Robin, mon fils, avec Fred, ma kiné, Philippe, mon ergothérapeute, et l'indispensable Doumé. Mais à 4400 mètres d'altitude, on doit faire demi-tour à cause du mauvais temps. » Un mois plus tard, le 17 juillet, c'est reparti. Avec Doumé, bien sûr, Eric, Robin et mon neveu Fabien. À 1h30 du matin, nous quittons le refuge des Cosmiques pour attaquer à la lumière des lampes frontales la montée très raide du Mont Blanc du Tacul. Je me concentre sur les chaussures oranges de Doumé. Heureusement qu'il y a la corde. Plus haut, une échelle a été installée pour passer la crevasse. Et je monte. Je monte bien même. Je suis étonné. Après une pause à 4400 mètres au col de Branvin, nous attaquons les 400 derniers mètres. Je suis dans un état de fatigue avancée. Chaque pas est une épreuve. L'altitude pèse. Mais j'ai une énergie folle. Rien ne peut plus m'arrêter. À midi, nous arrivons tous les cinq au sommet. Et l'émotion est indescriptible. On se prend dans les bras, on se serre fort et on pleure de joie. C'est un combat de 3 ans et 4 mois qui s'achève, qui a permis d'aller au-delà de tous les pronostics, de réussir l'impossible en y croyant si fort que l'impossible est devenu possible. Et elle est là, Sylvie Samicia, je rappelle le titre de votre livre dont j'ai tiré chaque mot de mon histoire, Impatiente, aux éditions Guérin. Ma première question est la suivante, quelle était votre idée en écrivant ce livre? Parce que, pour vous avoir lu d'un bout à l'autre, je suis à peu près certain que vous n'avez pas fait ça pour la gloire, ni pour qu'on parle de vous.
J'ai pas fait ça du tout pour la gloire, j'ai fait ça parce qu'on me l'a demandé maintes et maintes fois d'écrire un livre, en me disant que ça aiderait des gens qui n'ont pas le moral, des gens qui pensent qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir. Et donc voilà, je l'ai fait pour ces gens-là.
Mais est-ce que vous êtes certaine que ça aide les autres?
Eh bien, vu les retours que j'ai, oui.
Et donc, genre, les retours?
Genre, ben merci Sylvie, grâce à toi j'ai de nouveau le moral, ou merci, j'essaye d'avancer, oh puis tout compte fait, je me suis cassé un bras, c'est pas grand-chose, et voilà. Donc ça fait plaisir.
C'est les gens qui râlent parce qu'ils ont cassé leur voiture dans un accident, mais eux, il leur est rien arrivé.
Entre autres, et puis des gens qui n'ont pas le moral pour plein de raisons, et ça leur fait du bien.
Ceux qui pleurnichent de petits bobos, ils vous agacent?
Non, parce que j'arrive à pleurnicher aussi d'ailleurs.
Ah, ça vous arrive encore aujourd'hui?
Bah oui, comme tout le monde.
Et là vous vous dites...
Et là, je me dis que c'est pas une bonne idée, donc j'arrête.
Oui, j'ai pas fait le Mont Blanc pour pleurnicher sur un bobo.
Exactement.
Mais en même temps, parfois, ça sert à rien de vouloir quelque chose. Par exemple, ça serait mentir de dire que tous les paraplégiques peuvent marcher.
Oui, bien sûr, ça serait mentir. Mais pour moi, c'était pas acceptable de pas marcher.
Vous voulez dire que parmi les paraplégiques qui se résolvent à rester dans un fauteuil, peut-être il y en a qui pouvaient marcher?
J'en suis certaine.
Absolument certaine.
Oui.
Parce qu'au début, quand on a ce genre d'accident, moi je le sais en ayant parlé à pas mal de paraplégiques, il y a un espoir. D'abord parce que le système entretient un espoir. On dit en Russie, peut-être on pourra vous faire marcher. Ils ont un système là-bas qui... Mais quand même, j'en ai connu beaucoup qui ne sont pas arrivés.
Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas, il y en a beaucoup qui ne veulent pas, et c'est comme ça.
Alors on va parler évidemment tout à l'heure longuement de cette volonté, pour essayer de comprendre d'où elle vous vient, parce qu'elle est assez exceptionnelle. Je voudrais savoir si on vous a déjà proposé de faire du coaching, comme on l'a proposé à Philippe Croizon par exemple. Vous savez, il a été amputé des 4 membres, et lui il a fait comme vous un peu la même chose, et lui il a traversé la Manche à la nage, puis relié les 5 continents, puis aujourd'hui il va dans des entreprises pour dire aux gens... Voilà ce que c'est que la volonté.
Alors, je suis invitée en février pour une association qui s'appelle ABCDE, justement, pour parler de cette aventure. Et puis, dans un lycée à Cluses aussi. Et puis, j'étais déjà dans un lycée à Thonon pour parler de cette aventure. Donc, c'est un genre de coaching aussi, tout compte fait.
Mais du business?
Du business, non. Mais
vous n'en ferez pas?
Non, c'est pas le but.
C'est pas votre truc, je le savais d'avance. Alors, évidemment, ce qui ressort de votre récit, c'est votre volonté incroyable, votre... capacité à surmonter l'adversité, qui est très rare. Vous êtes d'accord avec ça?
Il paraît.
Vous l'avez constaté dans votre vie déjà? Que parfois, par manque de volonté, les gens sont fermés?
Oui, bien sûr.
Dans leur sort?
Oui, oui, oui. Et là, j'avais beaucoup de volonté, mais ça m'arrive de ne pas en avoir tant que ça aussi. Ça dépend des moments. Peut-être.
Ça, vous ne le dites pas dans le livre?
Parce que le livre, c'est remarcher à tout prix. Et,
oui,
et,
oui.
Et là, il y avait de la volonté, beaucoup.
Alors, est-ce que vous savez d'où elle vient? Cette volonté. En général, la réponse est l'éducation.
Je pense que c'est un tout. Je pense qu'elle est en moi au départ.
Mais en vous comment?
Bah, c'est peut-être génétique parce que j'avais un papa qui avait beaucoup de volonté et j'ai une maman qui a aussi un bon moral.
Donc c'est l'éducation et la génétique.
Et une sœur aussi qui a un moral formidable et Et puis l'éducation aussi, peut-être.
Le sport, peut-être. Parce que le sport, déjà, cultive cette idée du dépassement.
Oui. Et la passion. Pour moi, la passion de la montagne, entre autres.
Voilà.
Habiter dans la montagne sans pouvoir y aller, c'est pas imaginable.
Oui, la montagne cultive encore plus cette idée du dépassement.
Oui.
Hein, que tous les autres sports que vous avez faits. Le cyclisme, peut-être aussi, quand même.
Mais remarcher quand on nous dit qu'on est paraplégique, c'est une grande course en montagne, tout compte fait. C'est arriver à un sommet sans laisser tomber. Il faut aller au sommet.
La musique, ça explique un peu moins les choses. Parce que la musique, c'est la sensibilité. Bon, il y a du travail, il faut être un petit peu... Il faut bosser. Mais enfin, c'est pas tant l'idée de dépassement, quand même, la musique.
On peut se dépasser en musique aussi. Jouer un concerto difficile et qu'on trouve magnifique et... essayer de jouer le mieux possible, c'est aussi se dépasser.
Le concerto pour clarinette de Mozart qu'on a entendu tout à l'heure.
Exactement, vous avez bien choisi le morceau.
Vous l'avez joué, bien sûr.
Oui, et j'adore.
Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est votre incroyable capacité à rassembler des gens autour de vous. Parce qu'on le voit très, très bien entre les lignes dans ce livre. Alors, vous êtes motivé, mais... Pour vous motivez des gens autour de vous, c'est-à-dire les personnels soignants, les kinés, les ergothérapeutes, votre mari, Eric, vos enfants. En fait, vous entraînez du monde, c'est-à-dire, il y a cette idée, je ne peux pas faire ça toute seule.
On peut faire ça tout seul, mais je pense que c'est trop difficile. Mais c'est un tout. Tout le monde entraîne tout le monde. Moi, j'entraîne les gens par l'optimisme et parce que je veux m'en sortir. Et Eric a fait un travail énorme là-dedans aussi, en contactant tout le monde et en expliquant jour après jour ce qui se passait. Et puis les amis sont venus, et puis l'équipe médicale aussi est motivée, on va dire, parce qu'une patiente qui a le sourire et qui veut s'en sortir.
C'est rare.
C'est certainement plus motivant qu'un patient qui râle.
Mais est-ce que vous vous reconnaissez cette capacité à entraîner les autres, à motiver les autres?
Non, je ne la connais pas.
C'est eux qui vous motivent.
Ça doit être un tout, oui, c'est ouais. Eux qui me motivent aussi.
C'est l'un et l'autre, je pense. Un point qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler à l'instant, qui m'a légèrement intéressé, c'est votre expérience de mort imminente. Vous n'êtes pas la première à raconter ça, mais j'ai raconté des tas d'histoires ici, sur ce thème-là. Vous avez donc vu une lumière blanche, c'était doux, n'est-ce pas?
C'était plus que doux, c'était d'un calme qui n'existe pas sur cette terre. C'était beau, c'était apaisant.
Attirant.
Attirant, très attirant.
Ouais.
C'est une expérience qu'on n'arrive pas à voir en tant que vivant.
Ouais.
C'est magnifique.
Et vous racontez très bien que ce sont les appels d'Éric, votre mari, qui vous motivent à revenir.
Alors moi, j'étais tellement bien là-haut que je n'avais pas du tout l'intention de redescendre. Ouais. Et je voyais mon corps par terre,
ouais.
Qui était là avec du monde autour, mais il ne m'intéressait pas. Et donc Éric m'a parlé gentiment, mais ça n'a pas fait. Donc après, il m'a crié dessus, il m'a hurlé dessus, il m'a dit qu'il y avait les enfants, il y avait lui. Et là, je l'ai entendu et je me suis dit, ah oui, j'ai mes enfants et j'ai un mari et j'ai une vie. Donc oui, il faut que je redescende.
Ouais.
Et donc, j'ai décidé de revenir. Tout compte fait, en décidant de revenir, je suis revenue vite.
Qu'est-ce que ça suscite chez vous, cette expérience, qui n'est pas courante, mais vous n'êtes pas la première?
C'est une belle expérience et
ouais.
C'est rassurant.
Ouais.
En se disant que, tout compte fait, mourir, c'est pas si terrible. Et tant que j'étais dans cet autre monde, j'avais pas mal, j'étais tellement bien. Le retour dans le corps était douloureux.
Et plus douloureux. Ouais.
Mais ce qui s'est passé là-haut, c'était beau, c'était magique.
Vous êtes croyante?
Oui, mais pas...
Ah, content, parce que je me suis dit, elle l'est.
Mais, enfin, non, mais
ça sent l'éducation catho.
Non, je suis pas baptisée.
Ah bon, d'accord.
Mais je crois à un certain Dieu, mais pas forcément tel qu'il est marqué ligne par ligne.
Et raconté ligne par ligne.
Voilà.
Alors, il faut qu'on parle du sujet des médicaments. Vous êtes donc en centre de rééducation. Vous avalez 69 médicaments par jour. Et, pour commencer de votre propre chef, dans le dos des médecins, vous virez, petit 1, les antidépresseurs, petit 2, les somnifères. Et moi, je me dis, au contraire, c'est ça que j'aurais gardé.
Et pourquoi vous les auriez gardés?
Mais parce que je me dis, dans cette situation, si le somnifère peut m'aider à dormir et l'antidépresseur à affronter...
D'accord, mais j'avais un problème, c'est que j'arrivais plus à réfléchir.
Ouais.
Mais vraiment, plus du tout. Et donc, il faut faire quelque chose. Si l'esprit s'endort, comment réussir à remarcher et aller au bout de mon rêve d'aller au Mont-Blanc?
Et alors après, donc vous diminuez les doses des autres médicaments dans le dos des médecins. C'est vraiment, c'est une tromperie. Hein
bah, disons que j'ai demandé au médecin d'arrêter
baisser,
ses médicaments et il n'a pas voulu. Donc il fallait que je le fasse tout seul. Mais j'ai revu ce médecin il n'y a pas longtemps.
Ouais, il a lu votre bouquin, peut-être qu'il est au courant.
Il a lu le
livre
et on a bien discuté et il comprend tout à fait mon geste, mais lui, en tant que médecin, il ne pouvait pas le faire.
Il ne pouvait pas le faire.
Non, parce qu'une patiente à qui on a coupé un bras, qu'on dit qu'elle ne va pas marcher, enfin, qui a tous ses problèmes, et qui dit non, je ne vais pas tomber en dépression, et je n'ai pas besoin d'antidouleur, je n'ai pas besoin de somnifères, on n'y croit pas trop quand même.
Alors qu'est-ce qu'il faut entendre derrière tout ça? Que les médicaments, au lieu de nous aider, parfois nous font plonger?
Alors j'avais besoin de médicaments, sans les médicaments, je ne serais plus de ce monde.
Bon.
Parce que je suis quand même arrivée en cadavre, ça c'est le médecin qui l'a dit à mon mari à l'hôpital.
Vous n'êtes pas anti-médicaments?
Je ne suis pas anti-médicaments, mais il y a un juste milieu. Quand on en a besoin, il faut en prendre, et si on n'en a plus besoin, on n'en a plus besoin.
Donne trop, des médicaments.
On en donne trop, à un certain moment.
Ouais.
On en donne trop.
La cerise sur le gâteau, c'est le médicament qui est là pour faire accepter les autres médicaments.
Voilà, celui-là il est terrible.
3 mois après... Vous ne prenez plus qu'un seul médicament, qui est donc le fluidifiant. Ça, vous vous êtes rendu quand même à l'évidence que sinon c'est une phlébite, et la phlébite, c'est la mort.
Voilà, en fauteuil roulant, il n'y avait pas le choix.
Il n'y avait pas le choix. Mais du coup, vous avez très mal.
Ah ben oui, mais rien n'est parfait. Mais j'ai mal, mais je peux réfléchir et donc je peux progresser.
Ma question suivante est un peu dérangeante, mais est-ce que vous n'auriez pas besoin d'avoir mal?
J'aimerais bien ne plus avoir mal. Parce que j'ai toujours mal quelque part maintenant, suite à l'accident. Mais non, j'aime pas avoir mal, mais c'est là, donc il faut que j'accepte.
Vous n'êtes pas dans cette idée qu'il faut souffrir?
Ah, pas du tout.
Il faut porter sa croix, j'en reviens à mon obsession des cathos, mais...
Ah non, j'aimerais bien ne plus avoir mal du tout.
Alors, il y a un sujet, évidemment, qu'il faut qu'on aborde, qui n'a rien à voir avec tout ça. On sent bien que vous avez profité de l'occasion pour le glisser, en disant « ça ne va pas se représenter 2 fois dans ma vie », c'est ce qui s'est passé avec le directeur de l'école de musique. Il vous a violé, c'est le mot?
Il a abusé sexuellement.
Ouais, c'est pas un viol?
Non.
Pas strictement. Bon, vous le traitez de salaud, vous mettez un point d'exclamation, et à partir de là, c'est fini. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la suite est très intéressante. Vous dites « j'ai rien dit », je me suis dit que c'était ma faute, et puis je voulais vivre. Et là, on trouve tout de suite la trace de cette volonté incroyable. Je voulais vivre heureuse et croquer la vie.
Exactement. Mais ça a été dur à avancer, mais oui, je voulais croquer la vie, déjà à cette époque-là.
Comme toutes les victimes d'agressions sexuelles, il y a évidemment ce sentiment de culpabilité au départ.
C'est parce que j'étais jeune, j'avais à peine 13 ans. Et dans ma famille, on ne parlait pas trop de ces choses-là. Et donc je n'osais pas dire, parce qu'on croit toujours que c'est de notre faute, quand on a cet âge-là. C'est bête. À y repenser plus tard, on dit « mais pourquoi on n'a pas dit? Quelle bêtise !» Et ma maman m'a dit qu'elle regrettait
de
ne pas l'avoir vue. Je dis que ce n'était pas de sa faute.
Elle n'a rien senti.
Mais non, et qu'elle n'y pouvait rien, et que ce n'était absolument pas de sa faute.
Et lui, ce qui est assez pervers, il voyait votre passion pour l'instrument, pour la clarinette, et pour l'harmonie, et il vous donnait donc les partitions gratifiantes. Parce qu'il y a des partitions très ennuyeuses. Quand on fait de la musique, il y a des exercices. Et puis, on sort les concertos. Et on te dit, tu vas pouvoir jouer ce concerto. Et vous pensez qu'il faisait ça pour étendre son emprise sur vous?
Ça, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'a fait aimer la musique. Il m'a gratifié, exactement. Ouais. Il m'a poussé loin dans la musique. Et alors, est-ce que c'était une contrepartie ou pas? J'en sais rien, j'étais trop jeune.
Et vous dites d'ailleurs que c'est grâce à lui, ce qui est d'une immense ambiguïté, que vous avez eu votre diplôme du Conservatoire Régional de Musique de Strasbourg.
Mais je le connaissais depuis que j'avais 7 ans, et c'était un ami, c'était un grand frère, c'était un parrain, et c'était un salaud. Voilà, c'est un tout.
et alors, là on a la trace du dépassement de soi, parce que vous dites, moi en même temps, bon, oui j'ai souffert, on retrouve la souffrance, mais... Je voulais autre chose. Moi, je voulais être heureuse, je voulais croquer la vie. C'est une expérience de ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire, je pose mon problème là et je trace ma vie.
Exactement. Et je pense qu'il faut toujours essayer de faire comme ça dans la vie. C'est pas forcément facile.
Sans nier le problème.
Ben, sans nier le problème, parce que le problème est là, mais en essayant de le résoudre d'une manière optimiste.
Donc, on trouve déjà, à 13 ans, le mécanisme qui vous fait monter au Mont-Blanc.
C'est ça. C'est un autre Mont Blanc.
C'est un autre Mont Blanc. Je rappelle, Sylvie Samicia, le titre de votre livre, Impatiente, aux éditions Guérin. J'étais ravi de prêter ma voix un peu souffreteuse à votre histoire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.